Donc, je vais reprendre la parole, désolé pour l'interruption. Et maintenant, je peux passer à présenter les positionnements et les enjeux du projet InsertACV. Donc, déjà, comme on vient de voir à partir de cette première question de sondage, l'analyse des cycles de vie est une méthode que vous connaissez, ou au moins la plupart d'entre vous. Mais pour ces 2% qui n'avaient jamais entendu parler d'analyse des cycles de vie, je peux vous dire qu'il s'agit d'une méthode connue et reconnue à l'international, probablement la plus courante aujourd'hui pour évaluer les impacts environnementaux potentiels avec une vision multicritère et qui est définie par les normes ISO 14040 et 14044, avec la particularité de permettre une vision très globale de la chaîne d'un produit ou d'un service qui va des premières étapes d'extraction, des transformations des matières premières jusqu'à la fin de vie de ces produits ou services, en passant par toutes les étapes de fabrication, installation, utilisation, etc. Et l'analyse des cycles de vie est très utile, mais il présente des inconvénients. Et pour représenter ces inconvénients, je vais présenter un exemple de l'empreinte environnementale des filières énergétiques, en particulier pour une catégorie que vous connaissez tous, qui est la catégorie d'émissions des gaz à effet de serre. Donc, dans cette figure, vous pouvez voir l'importance des variations des résultats d'évaluation d'impact pour pratiquement toutes les filières. Et il y a un petit zoom à droite pour améliorer la visibilité pour les filières renouvelables et nucléaires. Et qui permet de constater des valeurs assez importantes de variations si on prend par exemple les solaires PV, les solaires photovoltaïques, en fonction de la source d'information du rapport des auteurs que vous regardez, vous allez voir des valeurs qui vont des pratiquement 10-20 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure jusqu'à 1200. Et on regarde les mêmes variations, par exemple pour les nucléaires. Et même pour les centrales à charbon, on a des fourchettes de variations encore plus importantes qui vont de 700 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure jusqu'à plus de 1600. Et avec ces variations, il est évidemment assez difficile d'exploiter les résultats issus d'une analyse des cycles de vie et de prendre des décisions à partir de ce type de résultats. Et donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de trouver les sources de ces variations et les raisons qui peuvent motiver ces différences entre les différentes études. Et donc, comme vous savez probablement tous ou presque tous, les études d'ACV nécessitent d'un nombre très important d'hypothèses et des choix pour la modélisation. Ces hypothèses et ces choix vont des sources de données dites d'arrière-plan ou des données background utilisées dans la modélisation que l'on obtient à partir des bases de données et jusqu'au choix des méthodes d'évaluation d'impact qui peuvent également varier. Donc, en fonction de la méthode choisie, on peut, pour la même catégorie d'impact, avoir des résultats différents parce que l'ensemble de facteurs de caractérisation sont différents. Mais il y a aussi d'autres hypothèses et d'autres variations issues de simplement les systèmes qui est en étude, qui peuvent présenter une diversité de technologies ou qui peuvent présenter différents contextes temporels ou contextes géographiques. Si on prend par exemple les photovoltaïques, on n'aura pas la même performance environnementale par kilowattheure l'électricité produite. Si nous installons, nous considérons un panel installé en France, que si on considère un panneau installé dans les déserts du Sahara. Et donc, il faut également comprendre les types de variations qui jouent dans chacun de ces cas. On distingue principalement deux types de sources de variations, ce que l'on appelle les incertitudes et ce que l'on appelle la variabilité. Ce sont deux notions assez différentes, même si les traitements après, avec les méthodes d'analyse, vont être assez similaires. Mais conceptuellement, les incertitudes font référence aux variations liées à un manque de connaissances du système évalué ou des représentativités du modèle utilisé pour cette évaluation. Alors que la variabilité représente des variations inhérentes au système, des variations que l'on ne peut pas réduire par une meilleure connaissance du système. Et parmi ces incertitudes, on retrouve des incertitudes au niveau des valeurs spécifiques des données, on retrouve des incertitudes, comme je l'ai dit, au niveau du manque d'un modèle pour représenter fidèlement ce qui se passe dans la réalité, et aussi des incertitudes liées, par exemple, au choix des méthodes de caractérisation d'impact. Alors que dans la variabilité, on aura des sources qui viennent d'une variabilité géographique, d'une variabilité temporelle ou d'une variabilité technologique. Et donc maintenant que l'on sait qu'il existe ces variations et que ces variations représentent une incertitude importante sur les résultats que l'on obtient, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une première option qui est assez drastique, qui est on abandonne la CV. Est-ce qu'on abandonne la CV? Je pose la question. Donc déjà, moi, je propose non pour des raisons. La première, c'est que la CV, j'aime bien, ça me plaît, c'est une méthode très intéressante et qui me semble assez complète. Mais il y a une raison qui est meilleure et plus importante probablement, qui est est-ce que ces difficultés liées aux incertitudes et à la variabilité vont pouvoir se résoudre avec une autre méthode de gestion environnementale différente? Et il me semble que la réponse est clairement non, parce que toute autre méthode quantitative d'évaluation ou de gestion environnementale va passer de nouveau par ces mêmes sources d'incertitudes et de variabilité, et donc nous n'arriverons pas à résoudre les problèmes. Donc je propose une deuxième alternative, un peu plus constructive, qui serait l'analyse des sensibilités. Et vous avez ici sur ces slides un classement des types et des méthodes existantes pour réaliser des analyses de sensibilité qui vont nous permettre d'appréhender les sources d'incertitude et des variabilités en analyse cyclée des vies. Et en général, ces analyses de sensibilité peuvent se réaliser pour trois objectifs principaux. Il y a un objectif qui peut être la hiérarchisation des paramètres, c'est-à-dire nous allons essayer de faire un ranking des paramètres d'où contributeurs ou des contributeurs principaux à la variation, ces paramètres qui influent le plus les résultats dans les cycles de vie, et d'une autre part, les paramètres qui influent peu ou pratiquement rien à la variation des résultats d'analyse des cycles de vie. Et dans son deuxième objectif, on peut utiliser les résultats de l'analyse des sensibilités pour un criblage, pour un tri des paramètres. C'est-à-dire, nous allons identifier certains paramètres qui ont peut-être des effets ou une influence négligeable dans la variabilité de nos résultats. Et donc, ça va nous permettre de nous focaliser sur la collecte des données, des paramètres qui sont vraiment importants, des paramètres qui vont vraiment influencer nos résultats d'analyse des cycles de vie. Et enfin, on a un troisième objectif qui peut être décartographier l'espace des résultats d'analyse des cycles de vie possibles, c'est-à-dire de voir dans quelle fourchette de valeurs mes résultats d'analyse des cycles de vie vont varier, quelle va être la valeur minimale, la valeur maximale et même la probabilité de me retrouver dans une certaine zone des solutions possibles, des résultats d'analyse des cycles de vie possibles. Donc, pour répondre à ces trois objectifs, il y a plusieurs méthodes qui varient en complexité, qui varient aussi en nombre d'évaluations de la fonction nécessaire pour les utiliser. Et dans cette présentation, dans les projets insérés à CV, nous allons proposer deux options qui sont les options extrêmes, l'option la moins complexe parmi les méthodes disponibles et l'option la plus complexe. L'option la moins complexe correspondrait à une analyse de type local avec une variation individuelle de chaque paramètre, ce que l'on appelle one at a time, et l'autre extrême, l'extrême le plus compliqué, qui nécessite d'un nombre d'évaluations de notre modèle très élevé, et consisterait à une approche de type décomposition de la variance, qui va être plus exigeante, mais qui va nous apporter plus de réponses aussi. On va voir plus tard, au long de la matinée, et comment et les deux méthodes peuvent être utilisées et qu'est-ce qu'elles nous permettent de quantifier. Et donc maintenant, je vous propose une deuxième question. On va essayer que ça marche mieux que la première fois. Et donc cette deuxième question, c'est juste pour savoir combien d'entre vous avez déjà fait des analyses des cycles de vie locales et à quel niveau vous êtes familiarisé avec ce type d'approche. Donc, de nouveau, vous devez aller sur les liens qui est fourni dans la conversation écrite et vous devez utiliser les codes 4, 1, 2, 3, 2. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, pour répondre. Et entre-temps, je vais vous présenter très rapidement ce qu'une analyse des sensibilités locales. Et nous allons voir toutes ces approches un peu plus en détail avec les présentations suivantes. Donc, les analyses de sensibilité locale se caractérisent pour consister à de faibles perturbations, de faibles changements dans les paramètres à partir d'un scénario de référence ou d'un point initial. Et de plus, ces analyses de sensibilité locale sont des analyses one at a time, des analyses où on ne modifie qu'un seul paramètre, alors qu'on garde tous les autres paramètres à des valeurs fixes et correspondantes aux valeurs par défaut du point initial. Ce qui nous permet d'identifier clairement les paramètres qui ont une importance dans la contribution à la variation totale de nos réponses, mais qui présentent des limitations, notamment la limitation principale s'agit du fait que la variation individuelle de chaque paramètre peut nous cacher des variations, des effets et d'interaction entre paramètres différents. C'est-à-dire, il y a des paramètres qui peuvent avoir des effets combinés qui sont plus larges que la somme de deux effets séparés. Et nous n'allons pas voir ce type des problèmes ou ce type d'interaction si on utilise des analyses de sensibilité locale. Et donc maintenant, je vais afficher la réponse aux questions. Donc, on voit ici aussi une bonne nouvelle. Il y a une partie importante des participants qui ont déjà réalisé des analyses de sensibilité locale, presque les 50% d'entre vous. Donc, il s'agit de quelque chose qui vous parle, et il y en a même plus d'un 10% qui appliquent des analyses de sensibilité locale systématiquement. Et ce qui est très intéressant et nous donne déjà des éléments importants pour la discussion. Maintenant, on aimerait passer à voir les analyses des sensibilités globales. Et pour cela, je vous propose une deuxième question que vous allez trouver dans la présentation. C'est est-ce que vous avez déjà estimé l'incertitude de vos résultats par une simulation de Monte Carlo? Donc, pendant que vous répondez à cette question, vous avez peut-être déjà fini. Je vais introduire les analyses de sensibilité globale. Alors, le nom est assez intuitif. Il s'agit de faire une analyse où tous les paramètres d'entrée vont être modifiés simultanément. Pour faire ce type d'analyse, nous avons besoin d'abord de définir des distributions pour chacun des paramètres d'entrée avec les bornes minimum et maximum et aussi les fréquences de chaque valeur possible pour obtenir les distributions que vous pouvez voir maintenant sur l'écran. À partir de ces distributions, nous allons pouvoir générer des scénarios aléatoires à partir des tirages de type simulation de Monte Carlo pour générer des scénarios qui seront ensuite utilisés pour évaluer notre résultat d'analyse des cycles de vie pour tous les scénarios dont je parle. Et avec les résultats d'évaluation environnementale que l'on obtient, nous pouvons conduire deux types d'analyses qui d'habitude se font en complémentarité, c'est-à-dire l'un après l'autre. Et la première étape ou les premiers types d'analyses que nous pouvons faire, c'est ce que l'on appelle vraiment analyse d'incertitude et qui consiste à caractériser des distributions des résultats de mon empreinte environnementale ou mon résultat d'analyse des cycles de vie. C'est-à-dire, nous allons pouvoir déterminer, et par exemple pour la catégorie des gaz à effet de serre que j'ai mentionné tout à l'heure, la valeur minimale, la valeur maximale, mais aussi la probabilité de me retrouver dans une région ou une autre région de l'espace des résultats. Donc, quelle est la valeur moyenne, la valeur médiane que je peux avoir, etc. D'une autre part, l'analyse de sensibilité va nous permettre d'analyser la contribution spécifique de chaque paramètre, c'est-à-dire d'identifier quels sont les paramètres qui jouent un rôle plus important ou qui ont une influence plus importante sur la variation globale du résultat, de mon résultat environnemental, et quels sont les paramètres qui jouent un rôle mineur ou qui n'ont pas une influence et significative à ces variations. Donc, maintenant, on va afficher les réponses au deuxième sondage. Alors, ici, les réponses ont changé de façon importante. Il y a presque 50% des personnes qui participent à la journée qui n'ont jamais utilisé de simulation de Monte Carlo pour caractériser les distributions des résultats d'analyse du cycle de vie. Avec presque un 30%, ce qui est une bonne nouvelle quand même, et qui ont utilisé plusieurs fois. Donc, ce que l'on espère de la journée, pour ceux qui ont déjà utilisé ce type d'analyse, on espère que les outils d'insert ACV que nous allons présenter aujourd'hui vous permettent d'améliorer, d'aller encore plus loin dans cette simulation et dans cette analyse des sensibilités. Et pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, on espère déjà que vous vous familiariserez avec la méthode et peut-être vous essayerez de l'inclure, de l'appliquer dans vos travaux. Donc, si on revient à la présentation, il reste encore une dernière question à poser. Donc, c'est le dernier moment pour avoir des problèmes techniques. Mais j'aimerais poser la question sur quelle barrière vous trouvez pour l'application de ce type de méthodes d'analyse des sensibilités. Pour ceux qui ont répondu, vous les utilisez, quelles barrières vous avez retrouvées avant de les appliquer? Et pour ceux qui avaient répondu, non, je ne l'ai jamais utilisé ou je ne connais pas, quelles sont les barrières que vous identifiez comme des problèmes qui vous empêchent d'appliquer ce type de méthodes? Et entre-temps, pendant que vous répondez à ces questions, et je vais passer la parole à ma collègue Anne Prière-Vernat d'ENGIE Lab Trigen qui a déjà parlé il y a un peu de temps et qui va montrer son point de vue ou les témoignages d'ENGIE pour l'application de ce type d'analyse des sensibilités et de voir quelles étaient les barrières qu'Engie trouvait quand nous avons lancé ces projets en CRACV et les types d'analyses, la façon qu'ils avaient d'adresser les incertitudes et la variabilité en analyse des cycles de vie.
Paola. Merci beaucoup. Oui, du coup, en fait, pour faire écho à ce que tu présentais juste avant, aujourd'hui, dans l'équipe ACV, on prend en compte, on étudie l'aspect variabilité et incertitude essentiellement via des analyses de sensibilité locale qu'on fait quasiment systématiquement, au moins sur certains paramètres. Et pour la partie incertitude, on utilise les simulations Monte Carlo dans CIMAPRO et notamment les matrices de Pédigré. Du coup, les barrières qu'on avait identifiées et qui nous ont aussi conduit à mener ce projet avec vous, c'est une limite technique qui est l'accès aux données sur les distributions qu'on peut utiliser pour chacun des paramètres qui sont inclus dans l'analyse d'incertitude, d'où le recours d'ailleurs à la matrice de Pédigré qui, de ce point de vue-là, est assez pratique, mais qui reste, disons, semi-quantitatif. Et puis les limites plutôt liées au logiciel, notamment sur l'interprétation. Et tu évoquais par exemple dans ta présentation le fait qu'il y a des corrélations entre plusieurs paramètres et les incertitudes qui sont associées, que du coup, on ne peut pas forcément bien capter et bien caractériser avec l'utilisation simple, si on peut dire, de CIMAPRO pour cet usage-là. Voilà, donc ça c'est la pratique qu'on a aujourd'hui, donc analyse de sensibilité systématique, et puis quand on a besoin d'avoir une évaluation de l'incertitude, utilisation des matrices de Pédigré et des simulations via Monte Carlo dans CIMAPRO.
Donc, merci beaucoup Anne pour partager ton point de vue et ça enchaîne parfaitement avec l'affichage de la réponse des autres participants. Nous allons voir si ces barrières qu'Engie a montrées se partagent entre d'autres personnes. Et donc on voit bien qu'effectivement, il y a des limitations liées au logiciel classique qui sont rencontrées par les gens qui utilisent la CV. Alors, il y a au moins 18 d'entre vous qui avaient trouvé ce type de problème dans votre pratique courante. Il y a aussi
Excuse-moi, Paola,
des personnes.
on voit pas les résultats à l'écran.
Qu'est-ce qui les partage? C'est Mélanie qui les partage.
Si, si, on les voit, les résultats à
Ah bon?
l'écran.
Alors c'est moi, pardon. Je sais pas, c'est peut-être.
Non, je ne les vois pas, moi.
Donc, nous voyons encore. Maintenant, je pense que la présentation a été changée. Mais il y avait 25 personnes qui retrouvaient des problèmes pour la caractérisation des incertitudes des paramètres d'entrée. Et il y a encore des personnes qui ont des problèmes pour la modélisation du système analysé et même de manque de connaissances des méthodes existantes. Alors, pour la dernière barrière, j'espère que la journée aujourd'hui vous fournira des éléments pour avoir une vision plus claire des méthodes existantes et de ce que l'on peut appliquer. Et pour les autres personnes qui trouvent des limitations en termes des logiciels, la caractérisation des incertitudes et la modélisation, nous espérons que la pratique, les outils en CRACV qui vont être présentés vous permettront aussi d'avoir plus d'informations pour améliorer ou pour augmenter la facilité de réalisation de ce type d'analyse des sensibilités. Et donc, finalement, je vais résumer les objectifs du projet en CRACV. Toute cette question, on avait réfléchi avant de lancer les projets, et c'est pour ça que nous avons défini les quatre objectifs que vous voyez maintenant sur l'écran, qui étaient en premier, mettre à disposition un protocole standard pour la généralisation de la prise en compte des incertitudes et de la variabilité en analyse des cycles de vie. Ensuite, de fournir un document, un manuel détaillé décrivant l'application de ce protocole, mais qui soit d'un point de vue très opérationnel et que cet outil soit accompagné d'une librairie de fonctions de calcul permettant la mise en œuvre de toutes ces méthodes pour la caractérisation et propagation des incertitudes et aussi pour l'identification des paramètres les plus influents. Pour finaliser avec le développement d'une plateforme web ouverte qui présente l'exemple de la filière photovoltaïque. Ce quatrième objectif sera moins présent dans cette présentation, mais nous pouvons vous fournir des informations complémentaires si vous le souhaitez. Et donc maintenant, nous passons au premier tour des questions de la journée. Donc c'est à vous de jouer. Et si vous avez des questions sur la présentation qui a été faite jusqu'à maintenant, n'hésitez pas, c'est le bon moment pour les poser. Merci à tous.
Merci beaucoup, Paola. Je vais reprendre la main juste pour le tour de questions. On a eu un commentaire dans la discussion par rapport à la détermination des incertitudes qui était un peu compliquée avec la matrice de Pédigré, parce que ça se base surtout sur une autonotation. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça, Paola ?
Et je ne comprends pas très bien la question, c'est-à-dire il est difficile d'utiliser la matrice de Pédigré pour...
Que c'est pas le meilleur outil, étant donné que la matrice de Pédigré est basée sur des autonotations et que c'est pas forcément très transparent comme notation. C'est comme ça que je le comprends.
Oui, c'est vrai, je comprends. Et alors, il faut aussi comprendre les contextes de la matrice de Pédigré. Et c'est vrai que pour certaines informations liées aux données d'arrière-plan, il faudrait trouver d'autres moyens pour quantifier ces incertitudes. Mais de toute façon, je pense que... J'ai l'impression qu'il est compliqué en ces moments et il s'agirait de faire de l'expérimentation additionnelle ou d'essayer d'aller plus loin dans la modélisation des éléments qui contribuent à l'incertitude pour essayer de cibler des éléments précis, des analyses sur lesquelles concentrer nos études. On pourrait faire d'appliquer d'autres méthodes complémentaires pour cette analyse de la matrice de Pédigré.
Merci beaucoup. On a une autre question. Je vais simplement la lire. De Manuel Bazana. De mon côté, j'ai des difficultés à modéliser des systèmes ayant des paramètres continus et discrets sous CIMAPRO. Un CERACV traite-t-il de cette question ?
Oui. Oui, en effet, j'ai déjà essayé la fonctionnalité de CIMAPRO pour définir des paramètres et c'est vrai que l'utilisation des paramètres discrets et des paramètres continus en même temps, c'est pas évident. Déjà, en général, cette utilité n'est pas très appliquée en pratique courante et nous proposons une alternative qui serait le développement des modèles complets et sur un langage de programmation de type Python, mais avec des éléments pour lancer cette procédure, parce que pour des personnes qui commencent avec ce type de modélisation, il s'agit de procédures qui sont difficiles à s'approprier en principe, mais j'ai l'impression que une construction d'un tel modèle permet beaucoup plus de flexibilité à l'heure de pouvoir appliquer des méthodes autres qui ne sont pas forcément disponibles en CIMAPRO. Nous allons voir dans les présentations à venir des recommandations pour la définition de différents paramètres, de différents types de distributions et comment faire ce type de choix de manière consistante.
Donc, Manuel Bazana répond. Très intéressant, merci. On a aussi M. Didier Hartmann qui répondait encore par rapport à la question des indices dans la matrice de Pédigré, que les critères rigoureux n'étaient pas toujours respectés, que la note de 1, la meilleure, était parfois donnée alors que ce n'était pas le cas et que donc l'incertitude était minorée, qui était gênant. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose.
Mmh. Oui, il me semble que c'est une autre problématique, mais qui nous allons pas aborder forcément dans cette présentation. Et on pourrait faire toute une discussion sur les alternatives pour améliorer ces types d'approches, mais qui sont vraiment très intéressantes pour continuer avec les sujets des incertitudes. C'est vrai qu'ici, nous nous focalisons surtout dans les incertitudes et la variabilité liée aux paramètres d'entrée et des données foreground. Et on ne parle pas très souvent des paramètres background. Mais nous pouvons imaginer certains exemples. Nous avons déjà fait des tests avec des variations, par exemple, des données background au niveau de mix électrique. Et pour ça, nous arrivons à identifier les effets de varier ou de choisir un ou un autre mix électrique à partir des paramètres discrets qui nous permet de modéliser un nombre plus élevé de scénarios et qui pourrait servir à avoir une vision plus claire, à substituer de certaines manières ces mesures de incertitude basées sur la matrice de Pellegri par d'autres types d'analyses de sensibilité.
Paola, peut-être juste si je peux compléter, c'est Anne oui. Ici. On partage tout à fait ce commentaire hein, sur les limites associées à l'usage de la matrice de Pellegri. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a souhaité travailler avec Lémine sur le projet InsertACV, puisqu'en effet, c'est de l'auto-évaluation. Et donc, quand on l'utilise, c'est vraiment parce qu'on a... On souhaite avoir une évaluation en ordre de grandeur de l'incertitude, mais il y a toutes ces limites qui sont inhérentes à la façon dont on utilise les matrices de Pellegri et qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Et c'est bien pour ça qu'on a voulu aller un peu plus loin via le projet InsertACV. Donc, on est tout à fait en phase avec cette remarque.
Merci beaucoup. Je propose qu'on continue les présentations.